Les grandes voix d'Europe 1.
10h, 11h, Sébastien Guyot.
Bienvenue sur Europe 1. Très heureux de vous accompagner jusqu'à 11h avec les grandes voix du samedi. Vous m'avez manqué, les grandes voix, la semaine dernière. Michel Cotta, Catherine Ney, Charles Villeneuve, Gérard Carrérou. Bonjour.
Bonjour. Bonjour Sébastien.
Ravi de vous retrouver pour cette heure de débat au menu de ce samedi 10 avril. La fin d'un système.
Il faut supprimer, entre autres, l'ENA. Mais pas pour se donner le plaisir de supprimer l'ENA. Pour bâtir quelque chose qui fonctionne mieux. Mais je ne crois pas au rafistolage.
Rafistolage, réforme en profondeur ou coup politique, j'attends votre regard avisé sur la décision d'Emmanuel Macron. Deuxième thème du jour, ce qu'on a appelé le Sofagate. Le Ursula von der Leyen en passe de devenir le plus célèbre de l'histoire européenne. La présidente de la Commission humiliée en Turquie est reléguée sur un sofa. Faute protocolaire sexiste ou geste politique assumé. Vous me direz ce que vous en pensez. Et puis l'affaire des dîners clandestins à Paris.
C'est le plus gros poisson d'avril de l'histoire de ces 10 ou 15, 20 dernières années. Et j'avoue que franchement, si les gens n'ont pas un peu d'humour, eh bien, ils n'ont rien compris.
Pierre-Jean Chalençon, l'un des organisateurs présumés, avait affirmé que des ministres participaient à ces dîners. Avant de se rétracter, que dit cette affaire et l'emballement médiatique autour de notre société? Là encore, j'attends votre réponse, les grandes voix. Et puis en fin d'émission, on évoquera bien sûr la disparition du mari de la reine d'Angleterre, le prince Philippe, à l'âge de 99 ans. Vous avez le programme, installez-vous confortablement. Le débat des grandes voix, c'est parti. C'était il y a 2 ans, avril 2019, après la crise des Gilets jaunes, Emmanuel Macron annonçait sa volonté de supprimer l'ENA.
Il ne s'agit pas du tout de stigmatiser l'ENA, j'ai fait cette école, je lui dois beaucoup. Et elle a un avantage, c'est qu'elle a quand même mis fin à ce qui précédait, c'était parfois les avantages, le copinage, le concours de bonne manière ou des choses qui étaient beaucoup plus approximatives. Donc il ne s'agit pas de dire que l'ENA est mauvaise en soi, au contraire. Il s'agit de dire simplement, si on veut une réforme ambitieuse, voilà, il faut rebâtir.
2 ans ont passé, le chef de l'État avait, semble-t-il, renoncé à supprimer l'ENA. Et puis jeudi soir, devant des hauts cadres de l'administration française, 600 cadres, sans aucun journaliste, patatras, il annonce que l'ENA va disparaître pour être remplacée par l'ISP, l'Institut du Service Public. Pourquoi maintenant? C'est un coup politique, Charles Villeneuve.
Plutôt qu'un coup politique, moi je ne vois guère le bénéfice, mais on va sans doute me l'expliquer, à commencer par le président de la République par la suite. Mais je trouve que c'est un sacrifice en quelque sorte, j'ai pas lu l'Ancien Testament, mais expiatoire. Après 3 cafouillages politiques, les gilets jaunes, la lutte anti-Covid et tous les ratés de l'administration, ne serait-ce que dans la campagne ou l'accélération de la campagne de vaccination, qui a l'air de prendre son élan, il fallait un coupable dont la dimension symbolique et politique était forte. Et l'ENA a une dimension politique et symbolique très forte. Elle est assimilée à une élite arrogante, dont fait partie d'ailleurs le président de la République, qui détient l'essentiel des leviers du pouvoir. Et l'ENA, c'est l'école du pouvoir, à gauche et à droite, et qui jouit d'un grand prestige. Maintenant, le bénéfice politique, je l'ai dit au début, reste à démontrer parce que la ficelle me semble grosse et parce que ce n'est pas le sujet sur lequel le président de la République est attendu actuellement.
Un peu trop grosse cette ficelle, Gérard Carrérou.
Écoutez, il y a la ficelle politique et puis il y a la réalité. Je voudrais dire un mot de la réalité. Moi, je suis de ceux qui étaient favorables à l'ENA. L'ENA, vous vous rappelez quand même, créée par Michel Debré sous le général de Gaulle, pour administrer un pays exsangue, sortant de la guerre, etc.
En 1945.
Voilà, dégager donc, effectivement, une forme d'élite, mais une élite républicaine qui passait les concours et qui... Bon, alors ça, c'était l'origine. Et comme toutes les institutions humaines, ça vieillit et ça peut être éventuellement nécessaire de modifier. Donc je pense qu'il fallait, à un moment donné, il faut, et d'ailleurs, je rappelle aussi ça, c'est quand même Jean-Pierre Chevènement, ministre d'État de Mitterrand, avant même d'être au gouvernement en 81, qui avait écrit l'énarchie pour dénoncer un certain nombre de scléroses de l'ENA.
L'énarchie ou les mandarins de la société bourgeoise en 67.
Absolument. J'en ai parlé avec lui à cette époque, ce qui prouve que ça montre que c'est une vieille chose. Donc qu'il faille réformer, moi je pense qu'il faut adapter, réformer. Alors est-ce que c'était... Ça c'est donc le premier point, on peut en discuter dans les détails. Mais Fallait-il le faire maintenant ? J'avoue que je suis un peu sur la ligne de ce que vient de dire Charles Villeneuve, c'est-à-dire que ça ressemble quand même un peu de le faire à juste un an de l'élection présidentielle, ça ressemble un peu à un coup pour dire « attention, coucou, après tout ce qui s'est passé, la réforme c'est toujours là, je suis le grand réformateur, moi, monsieur Macron, je suis capable de faire encore une grande réforme ». Il y a un côté un petit peu, je dirais, d'opportunité électorale qui me chagrine.
Opportunité électorale, Michel Cotta, ou c'est une façon aussi de se dénoyer de la mauvaise gestion de la crise du Covid ?
Comme le fait Gérard, je crois qu'il faut distinguer le fond et la forme. Sur le fond, on sentait bien les uns et les autres que cette prééminence de l'ENA, cette non-diversité de l'ENA, c'est les études même de l'ENA qui sont quand même sur lesquelles, vous savez, il y a un blackout complet, on ne sait pas ce qu'ils apprennent, ils lisent les manuels, etc. Mais c'est vrai que l'ENA, au bout d'un certain temps, il a beaucoup servi après la guerre. On a l'impression que c'est un groupe quand même usé, qui se répartit les pouvoirs et qui ne correspond pas à l'état de la spectrographie de la France. Donc, moi, je comprends très bien qu'on veuille changer l'ENA en faisant un peu moins le lieu de l'élite, puisqu'on est dans un monde où l'élite et le peuple, soi-disant, s'affrontent. Donc qu'il faille changer, c'est vrai. Est-ce qu'il faut changer maintenant ? On ne peut pas l'accuser, en tout cas, de faire ça au dernier moment. Hein. Ça fait 2 ans qu'il a donné cette réflexion à Frédéric Thiriez, qui avait été beaucoup plus loin, d'ailleurs,
l'essentiel, on y reviendra, sur le fond de la réforme. Il y a beaucoup de choses recommandées par Frédéric Thiriez qui a été retenues, notamment les grands corps.
Simplement, on va revenir sur le fond.
Simplement, juste un mot sur la fabrication des élites. On dit que tous les énarques se ressemblent et qu'il n'y a pas de diversité. Mais il faudra un jour mettre en cause pourquoi il n'y a pas de diversité quand ils ont 18 ans. C'est qu'il n'y a pas non plus de diversité à l'école et que l'école ne reconnaît plus ceux qui sont les meilleurs. Et au contraire, il y a une telle volonté égalitariste dans les collèges, dans les lycées, qu'évidemment s'en sortent uniquement les fils de famille aisés et les fils de famille cultivés.
Alors Charles Villeneuve le soulignait, Emmanuel Macron sort de l'ENA, comme plusieurs de ses prédécesseurs, Jacques Chirac, François Hollande et bien d'autres, 9 premiers ministres, hein, je crois, sur 23. Et pourtant, Catherine Ney, j'aimerais vous faire réagir à ce que disait Emmanuel Macron en 2017 à Clermont-Ferrand, quand il était interpellé par un passant.
J'ai la tête d'un moule ? L'ENA, c'est un moule pour qui veut le devenir ou qui l'avait déjà. Avant que ce soit l'ENA, c'était quoi ? C'était le recrutement par copinage. Moi, je préfère les concours de la République.
Il préfère les concours de la République, disait-il, Emmanuel
Macron. Oui, mais je crois que
cette
interpellation et les Gilets jaunes ont été... qui ne demandaient pas la fin de l'ENA. Hein. C'était pas ça. Mais je crois qu'un soir, il était à l'Élysée avec Jean Viard, le sociologue, qui l'avait beaucoup aidé à réfléchir pour sa campagne. Il se disait, mais pourquoi les Gilets jaunes ont failli venir à l'Élysée ? Ils étaient aux portes de l'Élysée, puis ils ont cassé
L'Arc de Triomphe.
Qu'est-ce qui se passe ? Alors on dit, mais parce que ça ne circule pas, la base ne se fait plus. Et puis Jean Viard a eu cette phrase, mais écoute, tu sais, il vaut mieux décapiter l'ENA plutôt que le roi soit décapité. Et là, ça fait tilt dans la tête d'Emmanuel Macron.
Tout serait parti.
Et 4 jours après, ben oui, Jean Viard me l'a raconté, et qui après dit, ben voilà, on va toucher l'ENA. On va, vous voyez. Mais l'ENA, qu'est-ce que c'est ? L'ENA, fondée en 1975, ce qui veut dire qu'il y a eu, fondu en 45, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, il y a eu 75 promotions, avec en moyenne entre 80, selon les... Ça veut dire qu'il y a en tout 7000 anciens énarques, dont la moitié ont disparu. Vous voyez. Et donc, imaginez que s'il en reste 3000, c'est depuis autant d'années, ce sont eux qui ont inoculé un virus et que, sans variant, et que ce sont toujours les mêmes. Alors, c'est vrai qu'il y a... S'ils se recrutent plus dans les fils de famille et quelquefois d'anciens énarques et que c'est un milieu où il y a un certain enfermement. Mais il y a aussi un tour extérieur où arrivent des universitaires, des policiers, des profs, même des. Et donc, il y a quand même plus de diversité qu'on ne le croit.
Si vous me permettez juste une incidente là-dessus. C'est pas ça le principal reproche qui est fait à l'ENA depuis des dizaines d'années par beaucoup de gens. C'est en fait, que ce soit l'école, la première marche de l'escalier qui vous conduit dans la politique. C'est-à-dire, on voit bien les itinéraires, ils sont tous les mêmes. Les jeunes gens brillants d'une génération, au moment de la présidentielle, ils vont voir qui l'entourage de Giscard à une époque, qui l'entourage de Mitterrand à une autre époque. Ils se font, ils sont des jeunes
zénards. Parfois les mêmes d'ailleurs, ils vont voir les deux.
Parfois les mêmes qui hésitent entre les deux. Et puis, ils font du cabinet ministériel pendant quelques années auprès d'un ministre important. Et la troisième année, ils continuent à percevoir, je le rappelle quand même, qu'ils continuent à percevoir leur salaire de fonctionnaire, de futur fonctionnaire. Et effectivement, ils font de la politique, ils se font élire. Et puis, c'est, alors, les gens, ils voient chaque gouvernement de plus en plus d'énarques. Et quand ils sont battus, ils reprennent leur place et leur ancienneté à continuer
alors,
à courir.
L'entre-soi, ça
choque les gens.
L'entre-soi, le manque de diversité, justement. Ce qu'on reproche à l'ENA. Je vais vous laisser plus de temps après la pause, Charles Villeneuve, pour en parler. À tout de suite.
Les grandes voix d'Europe 1. 10h, 11h. Sébastien Guyot.
10h20 sur Europe 1, bienvenue si vous nous rejoignez pour ce débat des grandes voix. Première partie consacrée à la suppression de l'ENA, coup politique ou réforme en profondeur. Ce qu'on reproche, on le disait à l'ENA notamment, c'est ce côté élite française, hein, cet entre-soi, tous sortis du même moule, pas du tout représentatif de la société française. D'ailleurs, moins d'1% sur la dernière promotion étaient fils d'ouvriers.
Regardez en Angleterre, ils sortent tous d'Oxford, c'est le
et
même
de Cambridge.
Moule aussi. À Cambridge, donc, bon, et
des universités.
Quoi. Oui, d'accord, mais ils sortent tous du même moule aussi, donc
il y a plusieurs universités. Pardon.
Oui,
ils
non,
sortent
mais,
pas
enfin,
du même
non,
moule.
Mais écoutez, en Amérique, l'université Harvard produit quelque chose qui s'appelle la Kennedy School of Government, c'est l'ENA américaine,
c'est ça.
Et on va à Harvard, donc c'est le même système. Forcément, un pays secrète. Dans ses meilleures enceintes, université scolaire d'abord, université ensuite, les meilleures. Donc c'est pas ça qui est à mon avis la critique de l'ENA n'est pas c'est pas ça qu'il faut dire. Parce ce sont que... souvent des gens de grande qualité.
Absolument.
C'est pas la question.
Parce que c'est une école d'excellence. Tout à l'heure, tu parlais, Gérard, de Jean-Pierre Chevènement, qui a écrit ce livre, et bien d'autres qui ont essayé justement de réformer l'ENA, mais ils se sont aperçus que c'était l'école d'excellence et que nous avons besoin, finalement, dans tous les secteurs de la République, des gens qui ont fait justement cette haute école d'administration que De Gaulle a voulu parce que, comme il disait, un fonctionnaire, c'est fait pour fonctionner. Bon, ça fonctionne un peu moins qu'avant, mais il n'empêche que dans les grands corps, il faut reconnaître, le président de la République, il sort d'où ?
De l'ENA,
il a choisi quoi ? Parce qu'il était dans la botte, c'est-à-dire dans les premiers. L'inspection des finances. Le Premier ministre Édouard Philippe, il sort d'où ? D'un autre grand corps de l'État, le Conseil d'État, parce qu'il était dans la botte et qu'il a choisi le Conseil d'État. Idem pour Castex, il sort d'où ?
Il sort
de la Cour des comptes. Autre, troisième grand corps de l'État. Alors, est-ce que cette réforme est susceptible de combler le fossé des inégalités ? C'est-à-dire d'augmenter le nombre d'élèves issus de familles défavorisées qui entrent à l'ENA ? Moi, je dis, c'est peu probable. Parce que, tout à l'heure, Michel l'a dit, le vrai problème, c'est bien en amont, c'est au niveau des lycées et des collèges. Regardez, aujourd'hui, en 1950, il y avait 29% de gens d'élèves d'origine modeste. Aujourd'hui, il y en a 9. 9%.
Ça a baissé à
parce
tous les niveaux,
réalité,
c'est ce que vous voulez dire.
Le fossé des inégalités sociales commence dans les écoles. La proportion d'enfants issus de familles qui ont des moyens est deux fois plus important dans le privé que dans le public. Et c'est là
bien
que
sûr.
Le fossé commence
bien
à se
creuser. La sélection,
puis Catherine Ney.
Bien sûr, parce que la sélection ne se fait pas à l'école. Elle ne se fait plus à l'école, elle reste au fond l'apanage des personnes qui peuvent donner à leurs enfants une éducation supplémentaire à celles qu'ils reçoivent à l'école. Alors, enfin, sans revenir à la Troisième République. À la Troisième République, il y avait tout le temps des inspecteurs qui allaient visiter dans les écoles les plus représentatifs, les plus intelligents, et qui disaient par exemple à Édouard Herriot, montez à Paris et faites normal. Bon. Ça n'existe plus et c'est même le contraire qui existe, puisqu'il n'y a pas de volonté de classer les gens. Il y a au contraire attention aux plus faibles. Il faut faire attention aux plus faibles. C'est à eux que doit se réserver notre vigilance. Alors évidemment, ce qui se passe à l'ENA, ça se passe dans toutes les grandes écoles. Il y a très très peu. Regardez le nombre d'ouvriers, de fils d'ouvriers à Polytechnique. Hein. Il y en a aussi très peu.
Alors Polytechnique, pour éviter, École normale supérieure, HEC,
donc la volonté quand même. Il y a sûrement quelque chose à faire pour redonner.
Mais ça a déjà été fait, Michel Cottet. Oui. Pour éviter des profils identiques, il y avait déjà ce qu'on appelle les classes préparatoires. Oui, oui. Égalité des chances à Paris.
Oui,
mais depuis 10 ans.
On l'a vu, mais justement, elles sont très difficiles et on s'aperçoit simplement que ça débute au lycée. Mmh. Et ça doit débuter au lycée. Et
mais presque, le système
même,
actuel,
ça doit débuter Catherine. Plus tôt. Et moi, je trouve qu'une des plus grandes réformes, peut-être, d'Emmanuel Macron, c'est d'avoir fait le dédoublement des classes pour les tout-petits, pour qu'ils apprennent à lire et à écrire, et qu'ils ne soient plus ces enfants qui arrivent dans les premières classes en ne sachant ni lire, ni écrire.
C'est l'idée de Blanquer.
Parce que ça, parce qu'après, ils arrivent non préparés et aujourd'hui ça se poursuit jusqu'au bac où il faut bien dire qu'aujourd'hui le bac il est quand même donné et que c'est pas du tout le même niveau qu'il y a plusieurs années.
Alors sur le fond, Gérard,
dans les réformes, je pense d'ailleurs il y a pas, c'est pour ça que j'ai pas eu une critique absolument décisive au début, parce que je pense qu'il peut y avoir des choses très positives dans la réforme. Par exemple les grands corps. J'ai relu attentivement ce que dit Amélie de Montchanin, qui est la secrétaire d'État au ministre, je me souviens plus, à la fonction publique.
Dont va dépendre la réforme.
Dont va dépendre cette réforme. Elle dit notamment qu'elle souligne une chose qui est réelle, c'est que les grands corps, ce qu'on appelle grands corps, la botte avec un B majuscule,
ce sont les meilleurs,
choisir Conseil d'État, à la sortie du concours de l'ENA, ils choisissent leur corps. Et ils vont où ? Ils vont au Conseil d'État, à la Cour des comptes ou à l'inspection des finances. Et si vous rebalayez les leaders politiques des principaux gouvernements depuis 30 ans...
Ils sont tous passés par là.
Ils sont passés, pas tous, mais beaucoup sont passés par là. Donc là, il faut redonner de la fluidité. Par exemple, dire qu'il n'y aura plus que des administrateurs qui sortiront, disons, égaux de l'ENA, et qu'on oblige éventuellement à faire des années de travail sur le terrain, dans les ministères, par exemple. Qui veut aller à la santé, dont on parle beaucoup actuellement ? Quand on est énarque, on ne rêve pas d'aller à la santé. Pourtant, il faut aller à l'administration.
Martin Hirsch...
Non, mais il faudrait que les meilleurs qui sortent de l'ENA aillent dans ces ministères-là, au logement, à la santé, aux affaires sociales, etc. Ils n'y vont pas.
Alors, qu'est-ce qui va changer avec ISP, Charles Villeneuve ? Qu'est-ce qui va changer avec l'ISP ?
Parce que d'aborder.
Le concours d'entrée sera toujours là, le classement à la sortie également, ça sera toujours
là,
à Strasbourg.
Le classement de sortie est là, mais ce qui disparaît, c'est que les meilleurs... si tu veux, par rapport au classement de sortie, n'auront pas automatiquement leur ticket d'entrée à l'inspection des finances, au Conseil d'État ou à la Cour des comptes.
Absolument.
Ils devront faire ce qu'on appelle, parce que tous formeront les administrateurs de l'État. C'est ce que tu viens,
c'est ce que tu viens de
préciser. Oui. Et après 5 ou 6 ans d'expérience sur le terrain, à ce moment-là, ils rejoindront les grands corps. C'est-à-dire qu'en réalité, on va leur donner une pratique dans les territoires de l'administration du pays.
Parce que jusqu'à présent, je vous rappelle le stage de l'ENA. Les énarques faisaient un stage de quelques mois dans une sous-préfecture.
C'est ça.
Franchement, on n'est pas sûr de son efficacité. En attendant, ils n'apprenaient pas grand-chose là.
Non,
et ils n'avaient
vrai,
pas le temps d'apprendre, d'ailleurs.
Ce n'était pas suffisant. Nous avons reçu un certain nombre, d'ailleurs, dont la ministre de la Défense à l'heure actuelle,
Laurence Parly, nous avons d'ailleurs très bien noté, parce qu'elle nous avait
paru extrêmement précise. Oui. Et d'ailleurs, elle se débrouille très bien au ministère de la Défense.
Catherine Nedamou,
non,
après,
je veux dire que Macron a fait partie de la promotion à l'ENA, de la seule promotion qui avait contesté le classement, parce qu'ils pensaient que c'était des fils d'archevêques qui étaient trop promus et pas eux. Oui. Et donc, ils avaient saisi la justice administrative et le Conseil d'État leur a donné raison. Seulement, comme la justice est lente, elle leur a donné raison 2 ans plus tard, ce qui n'a rien changé. C'est que ceux qui avaient été désignés avaient quand même été,
dans les grands corps. Ça prouve quand même qu'il y a une conviction chez Macron, ce que vient de dire Catherine, et pas seulement un coup politique.
À l'arrivée, comme le dit un ancien énarque également, Michel Sapin, j'entends parler de suppression, je vois plutôt une réforme et c'est plutôt vers cela que l'on tend.
Il a raison.
Merci les grandes voix pour ce premier débat.
Le changement de marque, ce ne sera plus l'ENA, ce sera l'ISP. Et quand on change de marque pour un grand produit, ça veut dire quelque chose.
Et quand on multiplie les gens qui accèdent.
Non, mais il y a un autre volet, de la réforme qui est très important, c'est qu'on va regrouper, si vous voulez, 13 corps
en commun.
Oui, 13 corps en commun et qu'on va créer une sorte d'équivalent de l'école de guerre, qui est le circuit des militaires. Des officiers supérieurs, et de la même manière, cette école de guerre va récolter les meilleurs, en réalité, pour les réinjecter dans les grands corps de l'État.
Et si on voilà pour ce débat sur l'ENA, je vous arrête là, les gens voient, et on passe dans un instant à notre deuxième débat du jour, ce qu'on a appelé le Sofagaït.
Europe 1, Sébastien Guyot.
En compagnie de Charles Villeneuve, Gérard Carrérou, Michel Cotta et Catherine Ney, avec notre deuxième débat du jour, assurément l'image de la semaine, image désastreuse qui a fait le tour du monde, le Sofagate, un scandale diplomatique. Mardi, Ankara, les ors du palais présidentiel, Recep Tayyip Erdogan reçoit le président du Conseil européen, Charles Michel, et la présidente de la Commission européenne. Problème, il n'y a que deux fauteuils pour trois. Vous entendez, c'est Ursula von der Leyen. Les deux hommes s'installent sur les deux fauteuils. La présidente de la commission se retrouve debout avant de s'asseoir sur un canapé, d'où le nom de Sofagate. Finalement, on a un peu sous-estimé la nuisance d'un canapé, non ? Bon, bref, plus sérieusement, manque de courtoisie, sexisme, arrière-pensée politique du président turc, selon vous ?
Moi, je crois que le président turc a appliqué le protocole tel qu'il doit être, parce que dans... Le Conseil européen a pris séance sur la Commission. Alors, ça l'arrangeait sûrement. Bon. Donc, moi, je dirais qu'il a mis deux fauteuils et puis Madame von der Leyen est arrivée et il y avait un canapé pour elle, et à l'instar du ministre des Affaires étrangères turc qui était de l'autre côté. Parce que, dans l'esprit d'Erdogan, même si, peut-être au fond de lui-même, il pensait, parce qu'on sait qu'il n'est pas un féministe acharné, il voulait faire un mauvais coup à la présidente. Mais je ne crois même pas. Je ne crois même pas, parce que c'est une amie de Mme Merkel. Et en ce moment, Mme Merkel est ouverte, et plutôt ouverte, pour que la Turquie envoie des produits turcs en Europe. Hein, une ouverture des frontières pour les... Donc,
d'autant
je pense
que les autorités turques disent avoir respecté le protocole. Hein.
C'est le protocole. Enfin, moi, je pense...
Mais c'est des balivernes.
Oui. Ce sont des balivernes.
Des balivernes,
mais
complètement.
Peut-être des balivernes.
Pourquoi cette mise en scène est diffusée dans toute l'Asie mineure, à l'heure actuelle, et dans tous les pays arabes, et dans tous les pays du Moyen-Orient? Parce que c'est voulu par le protocole et sur ordre d'Erdogan. Bien évidemment, les deux ont rang de chef d'État. Et les deux, dans des réunions politiques de ce type, ont droit au fauteuil.
Si c'est trois hommes, en tout cas,
et d'ailleurs, ils pouvaient le faire. La délégation diplomatique européenne pouvait avoir repéré la scène et compris qu'il n'y avait que deux fauteuils. Ils ne l'ont pas fait. Et de toute façon, crois-tu, Catherine, que c'est un hasard s'il a quitté justement la commission un mois auparavant, qui stipule qu'il y a égalité totale entre les hommes et les femmes. Mais enfin, de toute façon, parce que Mme Merkel, évidemment, est dans ses petits souliers pour une raison simple, c'est qu'il a la clé de la vanne d'ouverture des 4 millions de réfugiés irakiens et syriens. Et s'il l'ouvre, ça va se déferler par l'intermédiaire de la Grèce sur l'Europe. C'est ça le chantage d'Erdogan.
Est-ce qu'il y a eu une manipulation du côté de Bruxelles quand même? Michel Cotta. Une erreur justement par rapport au protocole où Charles Michel savait qu'il n'y aurait que ses équipes sont allées sur place pour voir qu'il n'y avait que deux fauteuils.
Je pense que ce genre de voyage se prépare, y compris quand on est européen. Et au fond, ce qu'on a appris à cette occasion, je suis tout à fait d'accord pour dire qu'en effet, Erdogan a voulu donner un signe à son électorat conservatif. Il sait très bien, quand il s'en va de la Convention d'Istanbul, il sait à qui il plaît.
Convention d'Istanbul,
mais je pense quand même que ça se double.
Les violences faites aux femmes.
Quand on étudie un peu les choses, ça se double d'un vrai conflit à l'intérieur de l'Europe entre Charles Michel et Ursula von der Leyen. Et ça, franchement, je trouve ça lamentable.
Non, mais ils s'entendent très mal.
Il y a le Sofagate, si vous voulez, à la limite, ce ne serait pas grand-chose. Si c'était simple. Non, je dis, à la limite, ça ne serait pas grand-chose si ce n'était qu'une histoire de chaise musicale. Vous savez, le jeu, hein, tout d'un coup, on s'assied, puis hop, il y en a un qui n'a pas de chaise.
La danse du ballet.
C'est un peu ça l'image amusante, je dirais, malheureusement.
Entre guillemets.
Malheureusement, ce n'est pas du tout amusant. Il y a une manipulation d'Erdogan. Alors là, on voit très bien ce qu'est l'Union européenne. Il n'y a pas eu la vigilance nécessaire. Je ne sais pas qui s'occupe de ça à l'Union européenne. Mais quand il y a des grandes réunions internationales, il y a un protocole. Et il y a des gens qui passent leur temps à faire des répétitions et à regarder le protocole. Ah, mais tiens, t'as vu, la chaise là, elle est plus haute, là, plus basse, etc. C'est normal, on le fait quand il y a des chefs d'État. Donc là, manifestement, il y a eu une erreur. Et Erdogan a joué sur cette incapacité de l'Europe. Mais en même temps, ça montre, c'est le symbole. L'Europe, aujourd'hui, n'est pas capable de faire autre chose que d'apparaître ridicule, c'est ce qui s'est passé, ou de donner l'impression de se coucher. Or, elle donne systématiquement l'impression de se coucher devant Erdogan. Et c'est effectivement ce que...
sachant que dans Guénaud,
au moment... ce qu'Henri Guénaud, l'ancien collaborateur de Sarkozy, appelle, il dit, lui, c'est une image de la soumission. L'Europe est dans la soumission. Soumission dans certains domaines aux États-Unis, en tout cas, la soumission à Erdogan. Et Erdogan, c'est très bien. Et Erdogan en joue. Erdogan, avec non, les mais... Allemands, a un traitement préférentiel. Avec les Français, il en a un autre. Parce que les Français se sont rebiffés à un moment ou un autre.
Mais c'est pourquoi l'attitude d'Erdogan traduit un double bras d'honneur. Un bras d'honneur à l'égard de l'institution européenne, un bras d'honneur par rapport à l'idée que les Européens se font du statut de la femme, c'est-à-dire une parfaite égalité entre hommes et femmes.
Sauf qu'il y a eu beaucoup de réactions à travers le monde, en Europe notamment. Mario Draghi, le chef du gouvernement italien, qui a qualifié Erdogan de dictateur. Et en France, écoutez ce que disait Bruno Le Maire chez nos confrères de Sud Radio.
Bon, ces images m'ont profondément choqué. Et j'ai été déçu par la réaction des plus hauts représentants de l'Union européenne. Quand on est face à un chef d'État qui se comporte de manière autoritaire en jouant la provocation, qui sait parfaitement ce qu'il fait, en jouant sur une des valeurs fondamentales de nos démocraties, qui est l'égalité entre les femmes et les hommes, on se retire.
On se retire.
On se retire. Moi, je crois qu'effectivement, ça pouvait être une option, en tout cas pour Ursula von der Leyen. Mais alors, ils disent, oui, mais l'enjeu était trop important. Bon, alors, qu'est-ce que c'est que cet enjeu ?
Mais non, attendez,
qu'est-ce que c'est que cet enjeu ? C'est vrai que c'est un enjeu. C'est Erdogan lui-même qui demande de l'aide, je veux dire. C'est Erdogan. En plus, c'est ça le paradoxe. C'est lui qui est en mauvaise position ou en demi-mauvaise position maintenant dans son électorat, dans une partie de son électorat. Donc, il reconstruit l'électorat conservateur. Et puis, c'est lui aussi qui, économiquement, risque des sanctions américaines. Et par conséquent, c'est lui qui doit être, en quelque sorte, le demandeur.
Ce qui est extraordinaire, c'est l'image d'avoir vu Monsieur Michel s'asseoir, déplier ses jambes,
c'était encore pire.
Attendre,
absolument.
Et puis n'étant pas choqué en voyant l'embarras de sa collègue, de son ami,
de s'asseoir à sa place.
Il n'a même pas eu le geste. C'est ça qui m'a choqué. Moi, je trouve qu'Erdogan, il en a profité. Il a respecté le protocole.
Ils sont tombés dans la gueule du loup
parce que en raison du mauvais rapport qu'il y a entre l'équipe de Monsieur Michel et de Madame von der Leyen. Ils n'ont pas préparé ensemble ce voyage. Ils sont partis un peu comme des rivaux, comme ça peut arriver. Et l'attitude de Monsieur Michel était absolument le plus misogyne.
C'est une condamnation
était
d'Europe.
Sûrement,
c'est une condamnation de la diplomatie de l'Europe.
Absolument.
Au-delà
Michel
de l'image,
exactement.
Au-delà de l'image, on parle des conséquences géopolitiques de cet incident juste après cette nouvelle pause. À tout de suite.
Les grandes voix d'Europe 1. 10h, 11h. Sébastien Guyot.
Dernière ligne droite de ce débat des grandes voix avec Michel Cotta, Catherine Ney, Charles Villeneuve et Gérard Carrérou. Après le Sofagate, on va passer à une autre affaire, l'affaire...
Je peux dire quand même un mot sur le Sofagate parce qu'on ne l'a pas dit. Je trouve qu'il y a quand même une curieuse attitude de nos pays, je parle notamment de la France, mais d'autres pays, à l'égard de... Il y a deux dictateurs importants, deux autocrates importants. Il y en a un qui s'appelle Erdogan, l'autre s'appelle Poutine. Il se trouve que face à Erdogan, l'Europe flotte ou se couche, la plupart du temps, l'Europe flotte ou se couche, on voit les Allemands. Et quand il s'agit de Poutine, comme par hasard, Poutine, c'est l'ennemi et l'homme à abattre, et on ne veut même pas lui acheter. Je trouve qu'il y a une inégalité de traitement. Si on n'aime pas les dictateurs, et c'est mon cas, on les traite tous de la même manière, mais on ne fait pas on ne se prosterne pas plus ou moins devant l'un et on ne passe pas son temps à critiquer l'autre.
Sauf qu'Erdogan a une clé supplémentaire qui sont les réfugiés.
Les 4 millions de réfugiés syriens et irakiens qui sont sur son territoire.
S'il ouvre les frontières, on les a.
Ça veut dire qu'on est muni quoi devant Erdogan.
C'est du chantage.
Je veux dire, ce que n'a pas Poutine.
Enfin, moi, je trouve que le traitement par rapport notamment du Quai d'Orsay français, c'est-à-dire du ministère des Affaires étrangères, par rapport à Poutine, est inégal complètement. On ne tient pas compte de sa puissance et de sa présence géopolitique. Au Moyen-Orient, il n'y a plus que Poutine qui compte. On a abandonné complètement le terrain. Et c'est la raison pour laquelle, aussi bien avec les Turcs qu'aussi bien avec Poutine, on doit parler, on doit discuter. Et on ne doit pas se débarrasser d'un coup de main comme ça, ne serait-ce que par rapport au vaccin Spoutnik. On l'a fait avec une sorte de désinvolture invraisemblable.
Ça sera un débat à part entière, les grandes voix Poutine notamment, dont parlait ce matin Catherine Ney dans son édito. On va passer donc après le Sofagate à une autre affaire, l'affaire Chalençon, celle des dîners clandestins. Caviar, champagne, menu de grand chef à 160 euros, voire 490 euros. Pas de masque obligatoire. Ces dîners clandestins luxueux organisés à Paris, au Palais Vivienne, par le collectionneur Pierre-Jean Chalençon et le restaurateur Christophe Leroy. Tout est parti de ce reportage sur M6 le week-end dernier. Des ministres y participaient, affirmait Chalençon. Ce qui a valu sur Europe 1 cette réaction du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin.
À ma connaissance, il n'y a pas de ministre. Cette rumeur, elle vient, je crois, saper profondément la confiance que nous avons tous en nos institutions.
Mais monsieur le ministre, si saperait les fondements d'une démocratie, ce serait un défaut d'exemplarité. Vous dites qu'il n'en est pas question, mais on est d'accord qu'un tel défaut...
C'est évident que s'il y avait quelqu'un qui est membre du gouvernement à participer à un dîner, je n'ai pas à prendre les décisions que prendrait le président de la République ou le Premier ministre, mais je considérais qu'il, personnellement, il ne serait pas à la hauteur de sa fonction.
Sanction et démission.
Je ne suis pas le Premier ministre et le président de la République, mais ça me paraît très juste.
Gérald Darmanin avec Sonia Mabrouk cette semaine sur Europe 1. Depuis, le mal est fait. Pas de preuve que des ministres y aient participé, même si M6 affirme qu'il y en a au moins un. La rumeur sape la confiance dans nos institutions. C'est ce que dit Gérald Darmanin. Vous êtes d'accord avec ce constat ?
Bien sûr, c'est un poison mortifère pour l'exécutif. Dans la période de privation de liberté publique dans laquelle imposée aux Français, dans lequel on vit, dans le cadre de la crise sanitaire, il est bien évident qu'une sorte de démonstration impudique comme celle de cet organisateur de dîner clandestin qui klaxonne en plus et qui vient dire « j'ai même vu des ministres », etc. Par rapport, si vous voulez, à une comparaison que je fais qui est incroyable, c'est-à-dire qu'on envoie la police verbaliser une famille avec deux enfants sur une plage de l'Hérault, 4 fois 135 euros, et que ces mêmes gens entendent à la télévision qu'on organise à prix d'or des dîners clandestins, c'est inacceptable. C'est, oui. Alors heureusement, la justice s'en mêle.
Oui, c'est inacceptable. Oui, c'est inacceptable sur le fond, je suis d'accord avec ce que tu viens de rappeler, l'inégalité là aussi de traitement, malgré tout.
On parlait de caviar, alors c'était le summum.
Oui, mais malgré tout, ça révèle quelque chose sur notre société. Et ça, ça me fait plus mal. C'est cet esprit, ce sans-culottisme permanent de la société française. On a l'impression qu'on est encore... peu importe, mais je veux dire par là qu'on est toujours dans quelque part dans l'envie et on est aux aguets devant... Alors bien sûr, c'est très mal ce qu'ils ont fait, mais est-ce que ça justifiait que ça devienne... Nos médias traitent ça comme l'affaire Dreyfus... Non, laisse-moi finir ma phrase. Les médias traitent ça comme l'affaire Dreyfus. Non. Et deuxièmement, le système de l'État... Est-ce que vous avez vu le déploiement de police pour aller l'interpeller, et puis après le libérer 2 heures après, et puis le réinterpeller, etc. Attends, je trouve ça fou. Quand on cherche que des policiers...
Je vais vous dire, ça me dégoûte. Oui. Ça me dégoûte ce que ces deux types ont fait. Ça me dégoûte ces réceptions, alors que la moitié, les trois quarts de la France, est quand même accepte un certain nombre de choses désagréables. Je trouve ça, on est d'accord, c'est un peu vaudeville d'envoyer tous ces flics. Non. Il reste que l'acte en soi est un acte de décomposition décomposition de la société française.
On ne peut pas lutter contre les élites. Quand même.
On ne peut pas dire que les élites, sont vraiment
parfois,
à jeter.
Michel, on regrette que le pilori n'existe plus.
Oui. Je ne condamne pas, je dis que ça me dégoûte.
Non, mais moi, ce que j'ai trouvé dégoûtant, bien sûr que c'est un passe-droit extraordinaire, alors que beaucoup de tous les grands cuisiniers qui sont sollicités, on le sait, par des amis, mais faites des dîners, et le refusent. Bon, il y a ce Chalençon et tout ça. Mais moi, ce que je trouve encore plus vraiment épouvantable, c'est qu'il est dit, il y a des ministres. Il lance une accusation comme ça. Et je veux dire, il n'en apporte pas la preuve. Et alors, on finit par dire, il n'y en avait peut-être pas un, mais il n'y en avait peut-être pas deux, mais il y en a un qui avait des cheveux gris. Alors, aussitôt, ceux qui ont eu les cheveux gris sont
dire... Franck Riester
et M. Griset, comme son nom l'indique. Mmh. On dit, mais non, c'est pas nous. Et moi, je pense qu'il n'y avait aucun ministre.
Il n'y avait que les chauves.
Il n'y avait aucun ministre, mais ils ont eu... Oui. Mais le poison est parti quand même. Voilà. Et on a insinué dans la tête des gens... Encore, c'est toujours les puissants qui se permettent des choses qu'on ne doit pas faire.
C'est pour ça que c'est très grave.
Et moi, je crois que c'est ça qui est le plus grave. Et sur les réseaux sociaux, les ministres, voilà. On parlait des ministres et des ministres.
Voilà. Mais est-ce qu'ils n'ont pas
infuse,
à se taire, les ministres, voilà. Justement
non, est-ce qu'ils n'ont pas
à se taire, à ne pas démentir une rumeur qui n'est qu'une rumeur
Bah, écoutez, si quand vous êtes visé sur les réseaux sociaux, vous répondez. Vous répondez, au contraire.
Moi, je trouve que...
Je pense qu'ils ont eu raison de répondre. Parce que quand on... S'il avait répondu...
Il fallait pas qu'il se taise.
Il fallait pas qu'il se taise. Parce que, je veux dire, maintenant qu'il a dit non, mais prouvez aux autres que j'y étais. Mm-hmm. Puisque tout est photographié, puisque tout se sait. Bien, prouvez-le. Donc, le fait qu'il soit intervenu, ils ont eu raison. Mais je trouve que dans le climat actuel, où vraiment les gens sont désolés, déprimés, ne croient plus en rien... Eh bien, rien que le fait de dire que des ministres se permettent d'aller comme ça, dépenser 400 euros le soir et manger du caviar et ont montré des grosses... Voilà, c'est insupportable.
Et surtout quand soi-même, on en fait
un business.
Un art de vivre. Oui. Quand soi-même,
l'une des leçons, on en parle souvent entre nous, tous les quatre, l'une des leçons de cette histoire, en plus de celle que tu soulignais, toi, Gérard, et Catherine, justement, c'est qu'aujourd'hui, on est rentré dans l'ère du clash. Avec l'explosion du web et des réseaux sociaux, et qui est favorable à la diffusion de n'importe quel crack, si tu veux. C'est-à-dire ce que j'appelle un crack, c'est-à-dire un gag, soi-disant une ironie de l'absurdité, comme l'a qualifié l'avocat de Philippe Chalençon. Et ça crée l'événement. Ce sont des récits souvent faux ou approximatifs, parfois vrai aussi, qui crée l'événement et qui jette le discrédit sur la parole publique. C'est ça le problème. Ça
mais notre système médiatique, on ne peut pas s'absoudre. Nous qui sommes des hommes et des femmes et des hommes de médias, on ne peut pas s'absoudre d'une réflexion critique sur le rôle, effectivement, des médias, des chaînes d'information. Je veux dire, moi, on peut avoir aussi beaucoup d'attraction pour ces chaînes. Moi, j'y participe aussi. Mais je trouve quand même extraordinaire que les antennes de ces chaînes dites d'information continue aient consacré pratiquement toute leur couverture du matin jusqu'au soir. Heureusement, malheureusement pour lui, mais... et pour l'Angleterre. Mais heureusement que la mort du duc d'Édimbourg est arrivée parce qu'on continuait et on aurait mouliné encore hier toute la journée et aujourd'hui toute la journée.
Mais le président de la République lui-même est intervenu au Conseil des ministres pour dire que chaque ministre...
Les tribulations de Chalençon, mais c'est pas possible.
Dans l'État où est la société française, on ne peut pas opposer des gens qui ont le droit de manger avec un chef restaurateur à 250 balles dans un palais. Et dans l'état de la société actuelle, c'est vraiment mettre un coup de canif supplémentaire dans la décomposition, dans une certaine décomposition de la société française.
Parce que la virulence, si tu veux, et la violence vont avec le clash. Et c'est tout le problème. C'est la viralité et la rivalité qu'on met en scène en permanence.
Pas de clash entre les grandes voix, ça s'est plutôt bien passé, je vous en remercie. On fait une petite pause, on garde un petit peu de temps quand même pour parler du prince Philippe qui nous a quitté hier à l'âge de 99 ans. À tout de suite.
Europe 1, Sébastien Guillaume.
Allez, jusqu'à 11h, les grandes voix, on va parler du prince Philippe, l'époux de la reine d'Angleterre qui est décédé hier à l'âge de 99 ans. Il aurait eu 100 ans. Le 10 juin prochain, j'aimerais que d'un mot chacun vous évoquiez ce que vous retenez de Prince Philippe. On a vu ses émotions populaires, spontanées, à la fois à Londres et un peu dans le monde entier. Qu'est-ce que vous retenez, Catherine Ney, du Prince Philippe ?
Ben, ce que je retiens, c'est l'image d'un homme qui était toujours derrière la reine et qui faisait partie de notre histoire, puisqu'on sait toujours, moi je me suis toujours intéressée à la monarchie anglaise, parce que je trouvais que c'était une sorte de soap-opéra. Et puis maintenant, avec les...
Harry et Meghan.
Oui, c'est ça, Harry et Meghan. Enfin, il se passait sans arrêt quelque chose. Et c'était des gens qui étaient riches and famous et qui avaient les malheurs des gens ordinaires, avec des enfants qui divorcent, des problèmes sans arrêt, des enfants qui s'en vont, qui vous quittent. Et lui, il était là comme une sorte de pivot. Et je pense à sa vie qui a quand même dû être assez monotone, d'être toujours celui qui est derrière, qui veut faire tout sans jamais... Enfin, je veux dire, en suivant et en ayant des obligations à peu près toute l'année et qu'il a honoré jusqu'à l'âge de 97 ans, c'est-à-dire il y a 2 ans. Il a pris sa retraite seulement il y a 2 ans, alors qu'on voit bien qu'il était au bout du rouleau.
Je pensais que vous alliez me parler du prince Philippe en kilt, mais non.
Bon, finalement. Mais je vais vous le dire. Ah oui, bon. Et pour moi, la plus belle image, c'était quand, vers la soixantaine ou à la cinquantaine, on pouvait le voir en kilt, qui est quand même, pour un homme, la chose la plus difficile à porter. Et lui, il avait une sorte d'élégance. Il était d'un sexy absolument fou. Et là, c'est avec cette image que je retiens de lui.
Michel Cotta.
Je retiens de lui une image plutôt sympathique, hein.
Oui.
Encore qu'elle soit sans doute moins rose que ce qu'on le dit aujourd'hui, et qu'il y ait eu quand même quelques phases où manifestement il a eu du mal à se faire à son rôle.
Mais il a dit que sa femme était très compréhensible.
Voilà,
donc, on a compris.
Donc il a dit plusieurs fois.
La reine était
compréhensible. Non, ce que je me demande, c'est la sortie de Harry et de Meghan commençant. L'épisode qui se termine provisoirement par la mort d'Edouard Philippe, avec une reine.
Est encore en vie.
Merci de me faire remarquer. Et puis l'âge de la reine, c'est vrai qu'on se dit qu'est-ce qui se passe après ? Qu'est-ce qui se passe après ? Est-ce que c'est le début de la fin de la royauté ? Est-ce que le prince Charles n'est pas tellement aimé ? Qu'est-ce qui va se passer après ? En tout cas, j'ai remarqué qu'il y avait un défenseur formidable de la royauté, c'est Boris Johnson, qui a dit quelques paroles vraiment formidables sur le prince Philippe et la reine Elisabeth.
Gérard Carrel.
Oui, moi j'ai une grande admiration pour la force, mais la force au sens profond du mot. D'ailleurs, on disait que le prince d'Édimbourg, c'était la force derrière la reine. La force de l'institution de la monarchie anglaise. On a eu le siècle de la reine Victoria, où l'Angleterre dominait le monde, avec son mari, le prince Albert de Saxe-Cobourg, qu'elle a pleuré, il est mort aussi avant elle. Et là, on a la reine Elisabeth, qui, je l'espère pour elle, aura encore quelques années de règne, mais qui est une vieille dame.
94 ans.
C'est assez formidable, la monarchie britannique.
Charles Villeneuve.
Alors moi, ce que je retiens, si vous voulez, ça ne va pas étonner mes camarades, c'est le destin tourmenté du prince Philippe. Il ne faut pas oublier qu'il est de sang allemand, c'est un Saxe-Cobourg, et que ses sœurs et ses cousines, toutes les trois, pendant la Deuxième Guerre mondiale, ont épousé des gens du Reich, c'est-à-dire des personnalités du régime politique nazi, qui s'en est profondément écarté, à tel point d'ailleurs qu'il a été à 19 ans, et c'est ça aussi, c'est pour ça que je le qualifie son destin de tourmenté, il a dû après coup renoncer à ce qui était finalement son talent, c'est-à-dire un excellent officier de marine qui avait sauvé son bateau. Et il faut savoir que la seule décoration étrangère qu'il portait était une croix de guerre française avec citation au feu. Et c'est la seule qu'il portait, vous savez, toutes ces personnalités arborent une rangée de médailles, etc. Et en cela, je trouve qu'il a été, même quand il portait le kilt, d'une impassibilité formidable par rapport à ce destin.
Et les images et les hommages vont se poursuivre aujourd'hui avec des coups de canon qui seront tirés un peu tout au long de la journée de Londres à Belfast. Merci les grandes voix pour ce débat passionnant comme toujours et que vous pouvez retrouver en podcast sur europe1.fr. Merci à Julien Blanc aujourd'hui à la réalisation. Merci à Capucine Patouillet pour son aide à la préparation de cette émission. Tout de suite, la table des bons vivants avec vous, mon cher Laurent Mariotte. Quel est le programme ? Bonjour.
Bonjour Sébastien et bonjour les grandes voix. Alors vous avez remarqué, là, c'est un petit peu frisqué ce matin.
Oui.
Alors on va se réchauffer avec un dossier spécial cuisson. On va braiser, bouillir, rôtir et gratiner. Et le grand chef Guy Savoy sera des nôtres. A tout de suite.
A tout de suite.